France Culture.
On fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Et l'on se rendra tout d'abord à Jérusalem après que le passage de Rafah entre la bande de Gaza et l'Égypte a rouvert ce matin dans les deux sens, mais encore au compte-gouttes, on le verra, pour les habitants de l'enclave palestinienne. On s'intéressera à une querelle de pouvoir au plus haut sommet de l'État en République tchèque. On détaillera par ailleurs les dernières révélations suite à la publication ce week-end de nouveaux documents dans l'affaire Epstein. À suivre également la réaction du coproducteur du film Un simple accident après qu'on a appris l'arrestation à Téhéran du co-scénariste de la dernière Palme d'Or à Cannes, par ailleurs militant des droits de l'homme. Enfin, l'actualité en France, c'est notamment le lancement aujourd'hui même de la campagne pour les municipales. À cette occasion, on se demandera pourquoi nombre de candidats veulent faire croire qu'ils ne sont pas des politiques. On posera la question à notre invité. Après avoir verrouillé à double tour et durant des mois les Palestiniens dans leur enclave en ruine, Israël a donc commencé à autoriser ce matin le passage sous strictes conditions des Gazaouis à travers le poste frontière de Rafah, tel que prévu en réalité par le plan américain visant à mettre fin définitivement à la guerre. Sauf que la réouverture de cet accès stratégique ne concerne pour l'instant que les habitants. En d'autres termes, elle ne permettra pas d'augmenter l'aide humanitaire à destination du territoire anéanti. Puis si ce geste contraint par Washington est destiné à demeurer encore très largement symbolique, les frappes de l'État hébreu sur la bande de Gaza en dépit du cessez-le-feu sont quant à elles toujours bien réelles. Ce week-end, elles ont coûté la vie à au moins 32 personnes, majoritairement des femmes et des enfants. Thibault Lefebvre, bonjour.
Bonjour Thomas.
Correspondant de France Culture à Jérusalem. Dans l'immédiat, une cinquantaine de personnes par jour devraient être autorisées, Thibault, à transiter dans chaque sens.
Oui, ouverture officielle peu avant 9h ce matin, heure française, mais personne pour le moment n'a traversé la frontière, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Alors sont concernés par ces évacuations les blessés et les malades qui ont besoin d'être au plus vite hospitalisés à l'étranger. 50 Gazaouis aujourd'hui, chacun accompagné de deux de leurs proches. Ce sont donc 150 personnes qui pour la première fois depuis plus d'un an vont sortir de l'enclave. Du côté égyptien, 50 Palestiniens attendent actuellement dans un bus de pouvoir rentrer chez eux. Ils ont été contrôlés et choisis par les autorités israéliennes. Alors l'espoir est plus que mesuré ce matin dans l'enclave. Je vous propose d'écouter le témoignage que la journaliste Salma Kadoumi vient de m'envoyer. Elle attend depuis des mois de pouvoir évacuer son frère. Il a été gravement blessé dans un bombardement.
La réouverture du poste frontière de Gaza, c'est uniquement pour les médias. Le nombre de personnes concernées est très faible. C'est juste pour le spectacle. Les gens ici sont pessimistes. Ça n'a pas de sens d'ouvrir de cette façon-là les portes de l'enclave.
Rafah doit ouvrir tous les jours pendant 6 heures et permettre donc à la fois un nombre très limité de rapatriements et d'évacuations d'urgence.
Alors on comprend bien la force du symbole, Thibault, sauf que cette ouverture ne va a priori pas changer grand-chose sur le terrain.
Eh bien non, 22 000 Palestiniens sont malades ou blessés. Ils doivent être évacués pour être soignés selon les autorités locales. Alors à ce rythme-là et à condition que les Égyptiens les acceptent tous, il faudra un an et demi pour les sortir de Gaza. Selon la même source, 80 000 Palestiniens ont fui l'enclave pour le Caire pendant la guerre, payant pour certains des sommes exorbitantes avec 50 rapatriements quotidiens. Les derniers attendront plus de 4 ans pour retrouver leurs proches. La réouverture de Rafah est donc avant tout symbolique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les Israéliens qui contrôlent totalement l'opération, ont sous contrainte américaine accepté, après 4 mois de tergiversation, de respecter à minima leurs engagements pour la première phase du plan de paix.
Merci Thibault Lefebvre en direct de Jérusalem. C'est devenu une tendance lourde en Amérique du Sud, un virage à droite toutes en même temps que la fin d'une époque. Hier, la candidate du Parti conservateur au pouvoir au Costa Rica, Laura Fernandez, a enregistré une victoire écrasante à la présidentielle avec 49% des suffrages. C'est 9 points de plus que nécessaire pour remporter le scrutin dès le premier tour. Alors dans une société parmi les plus inégalitaires d'Amérique latine, certains y verront peut-être la faute au désenchantement face aux promesses progressistes, mais plus encore aujourd'hui, les priorités ont évolué. À présent, les électeurs réclament de l'ordre et surtout de la sécurité. En l'occurrence, la politologue de 39 ans, élue hier, partisane de la manière forte pour lutter contre la criminalité, a probablement été portée par ses promesses de fermeté face au narcotrafic.
Quand la société civile s'érige en rempart face à une dérive nationaliste du pouvoir.
Parce que le diable de la dictature ne dort jamais véritablement. Hier, près de 90 000 Tchèques ont investi les rues de Prague. Un exemple de vigueur démocratique à la fois pacifique et spontanée. En en soutien au président engagé dans un brin de fer institutionnel sans précédent avec le premier ministre, le milliardaire autoproclamé trumpiste Andrei Babis, allié à l'extrême droite. Virginie Pironneau, bonjour.
Bonjour Thomas.
L'opposition parlementaire a lancé une motion de défiance contre le gouvernement. Celle-ci sera mise au vote la semaine prochaine. Elle n'a toutefois que peu de chances d'aboutir, Virginie, du fait de la majorité au Parlement dont dispose l'actuelle coalition au pouvoir.
Oui, peu de chances d'aboutir, mais cela témoigne des tensions qui règnent désormais sur la scène politique tchèque. La coalition au pouvoir est issue des législatives d'octobre dernier. Elle est composée d'abord du parti d'Andrei Babis, ANO, parti populiste qui a rallié le groupe des patriotes de Marine Le Pen et Viktor Orban au Parlement européen, mais aussi de deux formations eurosceptique, le parti d'extrême droite SPD et celui de droite des automobilistes. Alors, pourquoi tant de monde dans la rue hier ? Eh bien, c'est d'abord une histoire de chantage. Le président des automobilistes, devenu ministre des Affaires étrangères, Peter Masinka, a menacé par SMS le président Peter Pavel de représailles s'il ne nomme pas un de ses proches à l'environnement. Or, le copain en question, Philippe Tourek, ancien pilote de F4, ex-député européen, fait l'objet d'une enquête pour violence conjugale et viol sur son ancienne compagne. Des médias tchèques ont dévoilé de sa part des messages misogynes et racistes sur les réseaux sociaux et la police a enquêté sur des soupçons de possession d'objets nazis et de salut hitlérien avant de classer l'affaire. Beaucoup pour un seul homme. Le président refuse de le nommer au gouvernement. Voilà qui s'ajoute aux divergences de vues entre le président et le gouvernement sur les questions, par exemple, de politique étrangère, comme sur la guerre en Ukraine, notamment. Bref, un conflit comme la scène politique tchèque n'en avait encore jamais connu. Hier, les manifestants ont voulu démontrer au président qu'il n'est pas seul. Une pétition a déjà recueilli plus de 600 000 signatures et une nouvelle manifestation sera organisée si elle dépasse le million.
Merci Virginie Pironneau.
L'Iran dit s'attendre à ce qu'un cadre pour des négociations avec les États-Unis soit finalisé dans les prochains jours.
Et ce même si Donald Trump menace toujours la République islamique d'intervenir militairement, toujours est-il qu'après une flambée de l'or noir la semaine dernière dans la perspective justement d'une opération menée par les États-Unis, ce matin les cours du pétrole ont effectivement chuté de plus de 3% dans les premiers échanges sur le marché asiatique en réaction donc à la volonté insinuée par Washington de trouver un accord avec Téhéran. Pendant ce temps, eh bien, la population iranienne se retrouve, elle, écartelée entre la perspective donc d'une possible guerre régionale d'un côté, puis de l'autre, la crainte toujours de se retrouver victime de la tuerie de masse à huis clos orchestrée par le régime. Et s'agissant de répression, justement, on l'a appris ce matin, le co-scénariste du film Un simple accident de Jafar Panahi, Palme d'or à Cannes, a été arrêté en Iran. Cyril Ardo, bonjour.
Bonjour.
Mehdi Mahmoudian, par ailleurs militant des droits de l'homme, a été interpellé samedi à Téhéran.
Aucun détail sur les charges retenues contre Mehdi Mahmoudian n'a à ce stade été communiqué. On sait simplement qu'il a signé il y a quelques jours une tribune contre l'ayatollah Ali Khamenei et contre la répression des manifestations. Ce n'est pas la première fois que ce journaliste politique, blogueur et défenseur des droits humains a été interpellé. Il a été détenu de 2009 à 2014 pour avoir documenté des plaintes pour viol dans un centre de détention, puis de 2021 à 2024 alors qu'il dénonçait la gestion du Covid-19 par le régime. Cette nouvelle arrestation, malheureusement, ne surprend pas Philippe Martin, coproducteur français du film « Un simple accident ».
La vague de répression et la vague d'arrestation en ce moment en Iran n'a pas de précédent et qu'à partir du moment où lui a été signataire d'un texte qui était vraiment contre Khamenei et contre tout ce qui s'est passé depuis le début du mois de janvier, le fait qu'en étant en Iran, il puisse être arrêté, je pense qu'en signant ce texte, il savait que c'était possible. C'est difficile de ne pas être inquiet sur tout ce qui concerne les nouvelles iraniennes. Bah, bien sûr, je suis inquiet pour lui, je suis inquiet pour les autres collaborateurs du film et je suis inquiet pour Jafar Panahi parce que Jafar Panahi a toujours dit qu'il rentrerait en Iran dès que la campagne des Oscars serait terminée.
Et justement, l'arrestation de Mehdi Mahmoudian fait réagir Jafar Panahi, le réalisateur du long métrage qui a décroché la Palme d'Or à Cannes l'an passé. Les deux hommes se sont rencontrés en prison. Il essayait, écrit Jafar Panahi, de fournir à chaque nouveau détenu le minimum nécessaire et surtout de le rassurer. Ses 9 années d'emprisonnement lui avaient donné une connaissance directe du système judiciaire et de la vie carcérale. C'est notamment pour cette raison que les deux hommes avaient collaboré sur le long métrage.
Merci Cyril Ardo. Je précise qu'un simple accident, coproduction franco-iranienne, représentera la France aux Oscars. Il est nommé dans les catégories du meilleur scénario et du meilleur film. Décidément, le fantôme du milliardaire et criminel sexuel Jeffrey Epstein, mort en prison en 2019, n'a pas fini de hanter la vie politique, économique, sportive et culturelle, non seulement des États-Unis, mais aussi du monde entier. Vendredi dernier, le ministère américain de la Justice a entrepris la publication d'une masse de documents supplémentaires, près de 3 millions de pages au total. Sébastien Le Génie, bonjour.
Bonjour.
Et parmi tous ces fichiers apparaissent depuis de nouvelles personnalités de premier plan impliquées d'une façon ou d'une autre.
Oui, et la plus inattendue, c'est sans doute la princesse Mette Narit, la future reine de Norvège, dont le nom apparaît au moins un millier de fois, notamment dans des emails qui attestent d'une grande complicité avec Jeffrey Epstein. En 2012, par exemple, alors que le riche financier est à Paris, elle lui écrit que la capitale française est, je cite, « bien pour l'adultère », une correspondance embarrassante que la princesse de 52 ans dit aujourd'hui regretter profondément. Autre nouvelle personnalité éclaboussée, l'actuel président du comité des JO de Los Angeles, Casey Wasserman, qui admet avoir eu des échanges par écrit très graveleux avec Ghislaine Maxwell, la complice d'Epstein actuellement en détention. On peut citer également un conseiller de l'actuel premier ministre slovaque, Robert Fico. Il s'appelle Miroslav Mlačak. Des textos troublants en 2012 avec Epstein dans lequel ce dernier lui promettait des femmes. Cet ancien ministre des Affaires étrangères a depuis démissionné. Dans les personnalités étrangères, on y trouve aussi de nouveaux documents accablants pour l'ex-prince Andrew qui a toujours nié les accusations contre lui. On le voit notamment en photo à quatre pattes au-dessus d'une femme habillée allongée au sol. Enfin, dans les éléments révélés la semaine dernière, apparaissent un certain nombre de personnalités françaises qui entretenaient des relations personnelles avec le criminel. On y lit le nom de Jack Lang qui sollicite à plusieurs reprises des faveurs matérielles à Epstein, comme sa voiture ou son avion pour lui ou sa famille. L'ancien ministre des Finances Bruno Le Maire semble avoir rendu visite aux financiers chez lui à New York. Enfin, Epstein est entré en contact par email avec le mathématicien Cédric Villani. Des documents qui, il faut le dire, n'établissent en rien une forme de culpabilité. Ces derniers éléments, d'ailleurs, apportent au final plus de confusion que d'éclaircissement sur l'affaire. Ils ne donneront lieu à ce stade à aucune enquête du ministère de la Justice américain.
Merci Sébastien Logeni.
Midi et 41 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Sébastien Lecornu est attendu cet après-midi dans l'hémicycle de l'Assemblée pour un dernier tour de piste a priori victorieux. Cette fois-ci, la ligne d'arrivée est proche pour le Premier ministre. Le long et pénible marathon budgétaire touche à sa fin après le rejet probable grâce à la mansuétude des socialistes des deux dernières motions de censure déposées contre le gouvernement. Le projet de loi de finances 2026 devrait être définitivement adopté cet après-midi, sauf que cette page à peine tournée, une autre saga déjà qui débute aujourd'hui avec le lancement officiel de la campagne des municipales qui se tiendront les 15 et 22 mars prochains. Alors concrètement, cela signifie qu'à partir d'aujourd'hui, télé et radio vont devoir s'assurer d'un traitement dit équitable entre chaque formation politique et puis surtout que nous disposons à présent de 6 semaines pour vous faire vivre cette campagne et détailler la stratégie de chaque camp. On commence aujourd'hui avec le Rassemblement National. Nicolas Bellu, bonjour.
Bonjour.
Le RN espère que ce scrutin lui permettra enfin de parvenir à un ancrage local.
Oui, c'est le problème récurrent du RN, celui d'être localement et régulièrement en deçà de ses résultats nationaux. Après ces mauvais résultats de 2020, cette fois-ci, le parti d'extrême droite espère profiter de ces résultats des élections législatives de 2024 et 2022 notamment, et va présenter environ 700 têtes de liste. C'est un record. Il fait de ces élections un scrutin crucial, une marche vers la présidentielle de 2027, et a décidé de décliner le thème de la sécurité dans toutes les campagnes de ses candidats. Si le parti se refusait à avancer des objectifs, son président Jordan Bardella a finalement abandonné la prudence il y a 10 jours. Il affirme des dizaines de communes, principalement dans le sud. La première d'entre elles, et c'est presque une surprise, c'est Marseille, où Franck Alizio se retrouve au coude à coude avec le maire sortant, Benoît Payan, notamment dans le cas d'une cadre angulaire au deuxième tour. Nice, avec l'UDR, Éric Ciotti, Toulon, autre grande ville convoitée par le RN, qui espère conserver Perpignan ou conquérir Nîmes. Le RN a particulièrement visé tout le pourtour de l'étang de Berre, des villes moyennes tenues par la gauche, aujourd'hui menacées, des villes ouvrières, l'exemple vaut dans le nord, à Boulogne-sur-Mer, Calais, Lens ou encore dans l'Est industriel. Alors l'une des particularités du scrutin pour le RN, c'est que de nombreux députés vont s'engager dans la campagne. Des députés à l'Assemblée ou des députés européens encouragés par leur parti. Le RN souhaite également avoir un maximum d'élus dans les conseils municipaux parce qu'il s'intéresse aux intercommunalités, parce qu'il s'intéresse aux sénatoriales. Le RN espère constituer un groupe parlementaire au Sénat grâce à ses municipales. Autant de porte-voix de la vraie ambition du RN, l'ambition présidentielle, celle affirmée de Marine Le Pen, l'autre de Jordan Bardella. Marine Le Pen en procès dans l'affaire des assistants parlementaires du FN et un parti en suspens. Quant à Jordan Bardella, Il lance des ponts vers la droite classique, ce qui se traduit dans certaines listes locales, alors que l'électorat LR semble déboussolé. Enfin, le RN dit avoir sélectionné ses candidats pour éviter les dérapages racistes. Il n'empêche, depuis le début de la campagne, certains médias relèvent régulièrement des profils et des déclarations qui interrogent sur la capacité du RN à s'en débarrasser.
Merci Nicolas Baluy pour continuer d'évoquer donc ces prochaines municipales. Invité à présent de la rédaction, Sébastien Michon, chercheur au CNRS, spécialiste du personnel politique français et européen. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Il y a notamment une tendance assez nette qui se dégage en réalité de ce scrutin à venir, qu'il s'agisse de l'ex-rugbyman Serge Blanquois à Biarritz, de l'ancien journaliste Olivier Galzé-Avignon, mais aussi de la candidature à Lyon de celui qui fut le président de l'OL, Jean-Michel Aulas. Plusieurs personnalités locales mettent en avant aujourd'hui leur absence d'appartenance politique pour se lancer donc à la conquête des grandes villes.
Oui, on parle beaucoup de personnalités issues de la société civile. En fait, derrière ce terme, on évoque des personnes qui n'ont jamais été élues précédemment, qui ne sont pas membres de partis politiques. Et là, la tendance, c'est d'avoir des personnalités à la tête de liste, ce qui était relativement rare avant. On avait plutôt quelques personnalités qui figuraient en soutien, en fait, sur des listes.
On comprend bien comment tous ces candidats cherchent à marquer leur distance donc avec le jeu des partis, et plus encore d'ailleurs des élus perçus comme des professionnels de la politique. Pour autant, force est de constater que ceux qui restent le mieux placés aujourd'hui pour l'emporter, eh bien ce sont ceux qui ont tout de même derrière eux le soutien d'une formation établie. Qu'est-ce qu'il faut en déduire? Que l'émergence de ces profils venus de l'extérieur n'a pas encore réussi véritablement à transformer la place des partis dans la politique municipale?
C'est très compliqué de se lancer en politique dans des grandes villes hein, sans l'appui de partis, hein, que ce soit Jean-Michel Aulas, Olivier Galzi, ils ont derrière le soutien de partis politiques. Hein, Jean-Michel Aulas, en gros, a le soutien de tous les partis, du centre droit jusqu'aux Républicains. C'est du coup une tête d'affiche et derrière, on retrouve les cadres des partis. C'est les partis en fait amènent une logistique, un soutien, un point de repère, hein, et donc c'est l'idée derrière ces personnalités de proposer une offre un peu différente, hein, puisque les partis, il y a une forte défiance hein, à l'égard des partis, une forte défiance à l'égard des acteurs politiques, et donc c'est l'idée de régénérer un peu une offre politique un peu différente.
Est-ce qu'il n'y a pas malgré tout une forme de contradiction, puisque vous le disiez à l'instant, des personnalités mettent en avant leurs différences et des partis, au final, finissent par se ranger en ordre de bataille derrière eux.
Bah, c'est le champ politique, en fait, est pragmatique. Hein. Quand on voit les enquêtes d'opinion, on voit très bien que il y a une forte défiance à l'égard du politique, des partis, des acteurs politiques, la déconnexion, etc. Et donc, de mettre en avant ces personnalités, c'est de contrer, ça permet de contrer cet argument de déconnexion, puisque un tel va mettre en avant son expérience de chef d'entreprise, une autre personne va dire qu'elle veut mettre en avant ses compétences dans le secteur associatif, dans une action au quotidien, pour les citoyens. Voilà, donc c'est finalement une prise en compte de ces éléments-là. Après, on verra sur l'exercice du mandat. Ça sera une autre phase. Hein.
Et justement, est-ce que ces candidats qui capitalisent aujourd'hui sur cette tentation donc de renverser la table chez certains électeurs seront effectivement plus libres dans l'exercice de leur fonction que ne le seraient donc des candidats, disons, traditionnels?
Ce qui est très compliqué pour des personnalités issues de la société civile qui ne connaissent finalement pas le champ politique, mais qui ne connaissent pas non plus en fait le fonctionnement quotidien des institutions, c'est le début des mandats. Pourquoi ? Parce qu'elles découvrent l'institution municipale, elles découvrent un univers finalement inconnu. Donc, elles ont pu être au contact, ce sont des personnalités médiatiques, elles ont pu être au contact des journalistes, elles ont pu être au contact du monde politique. Mais le contact avec l'administration, dans les grandes villes, une administration municipale, c'est plusieurs milliers d'agents avec des fonctionnements spécifiques. Et là, c'est souvent plus compliqué. Et donc, il y a une forte découverte, hein, une découverte totale de ce milieu qui n'est pas toujours évident parce que finalement, la politique, c'est comme une langue. Ça s'apprend. Et on ne l'apprend pas, là, en quelques heures.
Et on terminera par ces mots. Merci Sébastien Michon, chercheur au CNRS, au laboratoire Sage à l'Université de Strasbourg, spécialiste donc du personnel politique, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Loïs Guérin pour la préparation. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Globalement perturbé à l'ouest, ainsi qu'en Provence-Alpes-Côte d'Azur, partout ailleurs. Alternance de nuages et d'éclaircies. Quant aux températures, elles seront comprises entre 7 et 14 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Axel Dubois et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.
Merci Thomas Cluzel, on se retrouve demain.
À demain.
Voici venir la deuxième partie des midis. Tout à l'heure à 13h, je recevrai la réalisatrice Valérie Donzelli et le comédien Bastien Bouillon. Mais tout de suite, c'est l'heure du point culture de Marie Sorbier. Bonjour.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Le musée du Quai Branly, Jacques Chirac, organise une journée d'études consacrée aux mutations des patrimoines sonores. Alors depuis de nombreuses années, ethnomusicologues et linguistes s'interrogent sur les moyens de préserver et de rendre accessibles les données immatérielles recueillies sur le terrain. À l'ère du numérique, ces témoignages sonores connaissent de profondes transformations dans leurs modalités d'accès, de circulation et de réappropriation. Focus donc aujourd'hui sur une plateforme en ligne qui permet à tous d'entendre des langues en danger. Alexis Michaud, bonjour.
Bonjour Marie Sorbier.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS, spécialiste des langues sino-tibétaines et austro-asiatiques, et vous vous occupez d'une plateforme en ligne accessible à tous qui s'appelle Pangloss et qui collecte et diffuse des corpus oraux de langues rares ou de langues en danger. Alors peut-être d'abord pour commencer, à partir de quand une langue est-elle en danger ?
Ça c'est une très bonne question. Alors c'est des contextes aussi historiques qui changent et qui sont plus les mêmes aujourd'hui à l'heure de la mondialisation et de ces divers avatars que ça n'était le cas dans le temps. Donc par exemple, si on essaie de dire ça va être parce qu'il y a tant de personnes qui la parlent et s'il y a moins de 1000 personnes qui parlent une langue, eh bien c'est plié, qu'elle va pas pouvoir, dans un monde où on est des milliers de millions à vivre, elle va pas pouvoir survivre. Et ça, ce serait pas une bonne perspective parce qu'il peut exister des cas de communautés de 200, 300 locuteurs qui finalement, dans les conditions propices à la perpétuation de leur société, qui est le lieu où est parlée cette langue, où elle coule de source, eh bien cette langue peut tout à fait perdurer dans le temps.